Le Festival Cinéma d'Afrique sur Radio Django, à écouter sur radio.django.fm.
Presque 17h dans 4 minutes, c'est avec toi Daniel que nous continuons et nous avons le plaisir de revenir sur l'histoire de Mama Colonel, un film de Dieu Amadi, une jeune réalisatrice, et documentariste congolaise, lauréat de plusieurs prix. Il s'est fait connaître de son premier documentaire sorti en 2009, Dame en attente, sur la pratique des hôpitaux congolais qui parfois séquestrent des patients sans le sou, suivi de Tolérance zéro sur la violence sexuelle, Atalaku, son premier long métrage sur la campagne électorale de 2011 en République démocratique du Congo, examen d'état sur des lycéens qui ne peuvent pas payer les primes de leurs professeurs, et Mama Colonel, sorti l'année dernière en 2017 et primé au Festival du cinéma du réel à Paris. Une filmographie qui nous plonge au cœur des réalités sociales du Congo. Hein.
Exactement, Fabien. C'est en effet la signature de ce jeune réalisateur de 34 ans qui aime filmer caméra à l'épaule, comme feu Joris Evans, un brillant cinéaste néerlandais. On ressent dans ses films l'urgence de témoigner, de raconter, de dénoncer des scènes du quotidien, un regard militant pour donner à voir la vie des gens ordinaires et mettre en perspective, en filigrane, les réalités sociales d'un Congo encore déchiré par des tensions politiques et économiques. Dans Mama Colonel, produit par Kiripi Katembo Sikou et Christian Lelong, Dieudo Amadi raconte avec tendresse et humanité l'histoire d'Honorine Mouyélé, responsable d'une petite unité de police dédiée à la protection des femmes et des enfants qui ont subi les affres de la guerre des six jours, qui a sévi dans la région de Kisangani en juin 2000.
Mina ona sana haki ya watoto. Mtoto wanamtupa. Watoto wanasema ni walozi. Wengine wanabaua. Vraiment ile moya mimi natia mkazo. Ule mwenye atakamatika hizi masiku. Hata mzazi natia mchumba maombi ole wake. Mama na yeye akufa. Sote tangu mama na yeye akufa mena. Oye atika lineti mama abandi kofe kufi mwana kwa. Tu paieras sa vie, même devant Dieu, au petit
tango. Donc, on équipe en abysse, il y a police pour la protection de l'enfance. Nous avons une confiance.
Alors ce film salue le courage de cette femme remarquable et le travail de confiance réalisé avec les victimes pour mettre debout la vie. Une expression chère à notre invitée, sœur Marjorie Georgette Chibang.
D'ailleurs, de passage en Suisse, vous l'avez, Daniel, rencontré à l'occasion de cette... Vous avez rencontré cette sœur invitée par l'association Vivere, une association lausannoise engagée dans la défense des droits fondamentaux dans différentes régions du monde. Vivere a la particularité de soutenir des projets et des initiatives locales, comme le centre d'accueil Tulizeni au Nord Kivu, au Congo. Ce centre fondé par cette religieuse franciscaine missionnaire de Marie soutient des femmes victimes de viol et ou de violence sexuelle, des orphelins et des filles mères. Ce film Dieudo Amadi a beaucoup touché notre invité.
C'est un film qui me touche beaucoup parce que ça me voit tout droit au cœur de la réalité des périphéries des vulnérabilités congolaises. Là, ça touche la question sociale, la question politique, mais aussi culturelle de cette société congolaise que je connais. C'est un film qui me touche beaucoup.
Quelle est la scène ou les scènes que vous retiendrez essentiellement ?
Trois scènes. La première, c'est le courage de cette maman qui, au-delà de son travail, qui est en principe un travail de l'État, mais c'est un travail qui est plutôt un don sacré pour elle. Elle est charismatique, elle est tout près de la souffrance des peuples, elle incarne l'espoir de tout un peuple à travers l'enfance et les femmes victimes.
À votre avis, qu'est-ce qui lui donne ce courage ? Son statut dans la police ? Sa fonction ? Le fait qu'elle soit maman ? Ou peut-être une dimension spirituelle ?
Je pense que le 3, il y a son statut qui fait qu'elle peut accéder à tout le monde. Il y a aussi le fait qu'elle est maman. Elle comprend, ça lui touche aux entrailles, c'est qu'elle voit ce qui est injuste, mais aussi comme maman, elle le sent. Voilà. Et comme femme, je pense qu'elle partage. Elle partage la même vocation féminine qui est pour la protection de la vie. Ça, c'est ça qui me touche chez elle. Il y a aussi la scène où elle travaille sur terrain et là, elle arrive à toucher du doigt la réalité qui la pousse à inviter toute la communauté à pouvoir se mobiliser pour une solidarité collective. Et elle arrive à le faire parce qu'à la fin du film, il y a des mamans qui se présentent pour pouvoir travailler à ses côtés, pour pouvoir l'aider. Et la troisième chose qui m'interpelle beaucoup, c'est le fait qu'elle arrive à mettre ensemble celles qui ont perdu les vies, les enfants qu'on a tués, les maris qu'on a tués, et qui retrouvent à la fin d'autres enfants. Et ça, oh, c'est extraordinaire.
Est-ce que vous pensez qu'elle fait un travail en fait qu'un homme pourra accomplir? Parce que ce qui est étonnant, elle a quand même une fonction très difficile, elle a de hautes responsabilités, elle est respectée par les policiers en fait qui sont sous ses ordres. Et pourquoi est-ce qu'un homme n'aurait pas pu avoir une telle fonction, au Congo notamment?
Je pense que c'est une femme du courage, comme on l'appelle. D'abord, travailler avec des hommes au Congo, c'est très compliqué. Arriver à les convaincre, quand on est femme, qu'il faut travailler pour mettre debout la vie, c'est une vocation. Et c'est ça qu'elle incarne. Et les hommes, c'est très compliqué, je pense. Parce que c'est autre chose qui les touche. Mais à côté des femmes comme elle, je pense que c'est beaucoup plus facile de travailler.
Qu'est-ce que vous entendez par mettre debout la vie?
C'est ramasser la vie qui est tombée en désuétude. Faire en sorte que dans ce ramassis, vous puissiez arriver à récupérer une valeur et à partir de cette valeur, bâtir la vie. Et c'est ça. C'est ce qu'elle a fait par exemple avec des enfants qu'on appelle de petits sorciers. Avec ses mamans qui, après 15 ans, se retrouvent finalement elles-mêmes et en communauté de femmes et avec des enfants.
La thématique de la sorcellerie traverse ce film par rapport à vos activités au Congo. Pourquoi est-ce que ce problème finalement qui est relativement moderne perdure? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lutter contre la sorcellerie?
Bon, premièrement, pour moi, cette sorcellerie, elle est liée à la pauvreté. C'est ça. Pour pouvoir lutter, il faut qu'il y ait des actions politiques. Il faut que les gens aient de l'emploi, du travail, et qu'ils gagnent quelque chose qui les aide à pouvoir subvenir à leurs besoins. Pour moi, tout le problème, c'est fuir les responsabilités. Quand on est un père de famille, on n'arrive pas à nourrir ses propres enfants. Quand on est une mère de famille, qu'on est veuve, ou qu'on n'a pas d'enfants, et le peu qu'on a, vous voyez que ça ne vous donne rien du tout en bénéfice. Finalement, vous les abandonnez en les accusant de sorciers. Pour moi, c'est un problème politique.
On sait que de manière générale, au Congo et dans d'autres pays africains, normalement, la femme et les enfants sont loués. Comment se fait-il que depuis près de 20 ans, on bafoue les droits de cette population?
Premièrement, est-ce qu'on connaît les droits de cette population? Est-ce que les populations connaissent leurs droits? Je pense qu'il y a toute une éducation à faire. Et c'est ça qu'il faut pour le moment au Congo. Une éducation, c'est ça.
Qui est-ce qui pourrait être à l'origine de cette éducation? Est-ce que c'est plutôt des ONG locales, le gouvernement, la communauté internationale?
C'est tous ensemble. Parce que des actions comme de la maman colonelle, elles peuvent être efficaces. Et puis, elles peuvent avoir un effet comme de papillon, c'est-à-dire de se propager, si tout le monde se met ensemble sur une bonne plateforme. Là où les intérêts sont pour la vie et pas pour de l'argent. Et c'est possible.
Dans quelle mesure est-ce que le cinéma permet de rendre visibles des drames oubliés, de dénoncer des politiques qui dysfonctionnent et de mettre des mots et des images sur ce qui peut blesser dans nos sociétés?
Parce que très souvent, les médias aussi ont l'habitude de pouvoir se focaliser sur des thèmes qu'ils pensent qu'ils peuvent rapporter un peu de sous. Mais ces thèmes-là qui touchent directement avec la misère, avec la vie, on essaie de les éviter. Or, c'est là justement qu'il y a la vie. Et nous ne pouvons pas ignorer dans notre situation et société d'aujourd'hui qu'il y a des gens quelque part qui souffrent et qui portent en eux beaucoup de souffrances et beaucoup de douleurs. Je pense que le cinéma, l'audiovisuel, peut réellement nous rendre conscients et conscientes de ce qui se passe sur d'autres planètes. Et d'une manière ou d'une autre, nous interpeller. Interpeller notre conscience et nous pousser à pouvoir agir, à écouter et à agir.
Mais quand on regarde le drame du Congo, quand on parle d'action, est-ce que l'action devrait venir de la population congolaise ou plutôt de la communauté internationale?
Dans le cas de Maman Colonel, elle le montre très bien. L'action vient d'une femme congolaise qui est prophète, disons, des autres femmes, qui les interpelle, qui interpelle toute la société. Et finalement, tout le monde se mobilise. Et à partir d'elle, les autres aussi peuvent se mobiliser. Il faut faire quelque chose.
Au niveau collectif.
Au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. Parce qu'elle, personne ne l'a poussée. On lui a donné une responsabilité comme militaire. Elle pouvait rester dans les lois et dans son bureau. Mais si vous voulez réellement toucher du doigt la réalité de la vie pour la mettre debout, il faut être avec la vie. C'est-à-dire, il faut être avec la population.
Vous découvrez avec Mama Colonel, un jeune réalisateur, Dieudonné Amadi. Qu'est-ce que vous pensez de ce travail, de ce jeune homme qui en est à son 4e film et qui a reçu déjà quelques prix?
Un travail courageux, admirable. Je regrette un peu que ce soit vraiment en Suisse que je connais Amadi. Et j'aimerais le rencontrer et le féliciter. C'est un jeune pour moi qui fait le même travail que Maman Colonel. Il a du courage. C'est un jeune congolais et qui parle de la réalité de son propre pays, pas simplement pour gagner un peu de l'argent, mais je pense pour Amadi, disons, pour interpeller la communauté internationale à ce qu'elle a vu réellement, là où elle est en train de tomber en désuétude et qu'il faut faire quelque chose. Et je pense que son objectif, c'est cela justement, de nous éveiller et de nous aider à pouvoir prendre des décisions, mais des décisions justes, des décisions de la vie.
Vous parlez d'éveil. Dans quelle mesure est-ce que les institutions congolaises participent et travaillent pour la protection des droits des femmes et des enfants au Congo?
Il y a des entités qui sont habilitées à faire ça. Il y a des lois qui sont promulguées et il y a des personnes à qui on a assigné ces responsabilités. Ils font ce qu'ils peuvent.
Qu'est-ce que ça veut dire, ils font ce qu'ils peuvent?
C'est-à-dire, il y a des chambres foraines qui se font parfois, mais à côté de cela, il y a aussi beaucoup de corruption. C'est-à-dire, ceux qui font le mal, vous le retrouvez deux jours après, qui sont libres et se moquent de vous.
On parle souvent de solidarité en Afrique, mais on se rend compte qu'avec le temps, cette solidarité se réduit comme une peau de chagrin au niveau local. Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Pourquoi est-ce que les gens sont de moins en moins solidaires et peut-être de plus en plus égoïstes?
Pour moi, je pense que c'est la pauvreté, encore une fois de plus. Si tu vis avec un dollar et que tu as 10 enfants et que tu dois vivre avec ce 1 dollar, tu achètes un verre de riz à 400 francs et puis le reste pour pouvoir nourrir tes enfants et mourir, comme on dit. Je pense que tu n'es pas assez mauvais quand tu te dis « d'abord je nourris les miens ». Cela ne t'empêche pas de pouvoir partager avec la personne qui arrive. Il y a des gens qui partagent. Mais des grandes solidarités où tu invites les gens à se dire « moi je vais me mobiliser pour faire ça », moi je pense aussi il faut penser que les gens ont beaucoup perdu. D'abord, la première préoccupation pour le moment, c'est un peu le ventre, moi je pense, malheureusement c'est un peu ça.
Comment est-ce qu'on pourrait éduquer les politiciens en place?
Tout d'abord, il faut bien les payer, moi je pense. Parce que s'ils sont bien payés, ils peuvent s'asseoir pour se laisser instruire. Pour le moment, ils essaient de soutirer l'argent là où ils peuvent.
Mais nombre d'entre eux sont déjà très bien instruits. Il y a beaucoup d'intellectuels au Congo, on le sait.
On le sait, mais est-ce qu'on les laisse agir? Voilà la question.
On va revenir un petit peu à votre histoire, qui est très proche de l'histoire de Maman Colonel. Racontez-nous ce que vous faites au Congo.
C'est intéressant parce que je me retrouve dans ce que Maman Colonel fait, à des millimètres près. Je suis franciscaine missionnaire de Marie. J'ai commencé au fait mon travail en 2008, quand je devais visiter les femmes victimes de violences sexuelles dans les camps des déplacés. Et cette action, finalement, s'est concrétisée dans une réalisation. Cette réalisation, c'est un centre qui accueille à la fois les femmes victimes de violences sexuelles pour les aider et leur donner l'opportunité d'une formation intégrale intégrée. Et puis, l'accueil des enfants, qui sont de sept catégories. Il y en a qui sont jetés dans des sachets en plastique après leur naissance, d'autres qui sont carrément délaissés dans les rues, d'autres qui ont été associés à des mouvements des rebelles et des rébellions où ils ont été utilisés comme des esclaves sexuels, ou tout bonnement comme des petits cuisiniers ou des transporteurs, d'autres qui sont victimes de viols en tout bas âge, ou qui sont des produits des viols, c'est-à-dire qui sont nés des viols, des suites des viols. D'accord. Et d'autres encore qui ont subi beaucoup, beaucoup d'inceste de part de leurs familiers, par exemple.
Ce qui veut dire que vous accueillez combien d'enfants au sein du centre d'accueil Toulizeni?
Un centre qui est vraiment dynamique. Hein. Ils peuvent être 100 aujourd'hui, demain 150, mais après demain ils peuvent être 85 par exemple. Pourquoi? Parce que nous faisons aussi tout un travail de réinsertion sociale. C'est une dynamique qui est très intéressante. Pourquoi? Parce que il faut rééduquer les familles à pouvoir redonner la vie aux enfants qu'ils ont abandonnés à un certain moment à cause de la misère ou à cause des conflits ou qui les ont perdus aussi. Donc nous faisons de la réinsertion sociale, mais aussi de l'éducation.
Justement, vous parliez tout à l'heure d'éducation intégrale, intégrée. Qu'est-ce que c'est au juste?
Au juste, c'est une éducation qui embarque toutes les facettes de la vie. Parce que tu ne sais pas donner à manger à la personne si la personne ne peut pas arriver elle-même à pouvoir gérer ce qu'elle produit dans son champ. Ce qu'on produit dans un champ, ce n'est pas pour tout manger. Il faut apprendre à conserver les semences. Il faut apprendre à mettre de côté un peu de ce qu'on a vendu et aussi il faut manger. Et avec tout ça, il faut savoir calculer. Il faut savoir faire la gestion. Il faut savoir faire du mercantile aussi. Et d'autre part, il faut être un petit leader, un rêveur pour demain.
Ce que vous êtes.
Voilà.
Mais qu'est-ce qui vous accompagne dans toutes ces activités au sein du centre? Est-ce que vous êtes seul à porter cette maison?
Non, on a beaucoup de gens avec nous. Il y a des assistants sociaux. Il y a à la fois un ou une psychologue, il y a des éducateurs, il y a des volontaires qui arrivent et qui viennent de partout. Mais il y a aussi les enfants eux-mêmes. Tout petits qu'ils sont, ils peuvent apporter beaucoup parce que ce sont des potentiels.
Mais qu'est-ce que ces enfants apportent concrètement? L'amour de la vie, ça c'est peut-être
la première chose. Ils apportent l'amour de la vie parce qu'ils nous apprennent comment il faut se mettre debout, même si on a beaucoup souffert. C'est-à-dire, ils sont capables de vous dire: je peux me sacrifier pour que le tout petit que moi puisse avoir un peu plus à manger aujourd'hui, parce qu'on n'en a pas assez. Mais ça, c'est une grande leçon pour moi. Et puis, ils ont appris à vivre en famille, même si ils n'ont pas eu la chance d'avoir papa et maman.
Comment se passe une journée au centre d'accueil?
C'est toute une organisation. Hein. Généralement, on est debout déjà à 4 heures du matin, surtout pour moi, parce que si je ne prends pas mon temps pour me concentrer dans ce que je dois faire la journée, alors j'ai perdu le temps. Et aussi, il y a toute la partie spirituelle pour moi. Donc, c'est le Christ qui est au fait le moteur et le sens de ce que je fais. C'est lui qui a appris et qui m'a appris à être vivant, à ressusciter à travers la souffrance. Voilà. Alors, dès 4 heures du matin, donc on est debout. Et les enfants, on commence à les laver à partir des 5 heures du matin.
Aussitôt?
C'est très tôt. Parce qu'ils sont nombreux.
C'est juste.
Voilà. Et parce qu'ils doivent aller à l'école vers 6h30. Et en même temps, ils doivent manger. Donc, il faut encore qu'il y ait quelqu'un qui se réveille tôt pour pouvoir leur faire le petit déjeuner. Il faut que le chauffeur arrive à temps pour pouvoir les amener à l'école. Et vers 7h, 7h30, on a la réunion de l'équipe. C'est là où finalement, où nous savons qu'est-ce que nous allons faire pendant la journée. Il y en a qui doivent aller travailler avec les avocats pour tout ce qui est acte de naissance, homologation, etc. D'autres qui doivent accompagner les enfants à l'école, d'autres qui doivent préparer, d'autres qui doivent laver, d'autres qui doivent bercer les bébés, ils restent à la maison, et d'autres qui doivent jouer avec les tout-petits, qui ne sont pas encore en âge scolaire, et d'autres qui doivent aller au marché, d'autres qui doivent aller au champ. Donc c'est tout un...
C'est comme la vie d'un village.
Exactement. Et là-dedans, les enfants aussi sont subdivisés en de toutes petites familles, et là où ils sont appelés à remplir de petites tâches. Par exemple, laver la table de là où on a mangé. Amener les assiettes à la vaisselle pour qu'on puisse les laver. Ramasser les habits là où ça ne doit pas être et les amener là où ça doit être.
Donc on leur apprend déjà à être
autonome.
Exactement,
voilà.
Est-ce que vous pourriez revenir sur le concept d'homologation et qu'est-ce que ça implique?
Ça implique beaucoup parce que dans le gouvernement congolais, ça ne suffit pas de ramasser les enfants et de les amener chez vous. Il faut encore que vous soyez organisé.
Donc c'est une autorisation?
Une autorisation, mais aussi que votre autorisation soit reconnue et acceptée. Une fois que cette autorisation est acceptée, vous êtes soit une ONG locale ou une ASBL, comme dans notre camp, ou dans notre cas plutôt, vous devez en même temps aussi légaliser les documents pour pouvoir être bien accepté au mieux. C'est-à-dire quoi, les enfants qui vous arrivent, après 3 mois de naissance, ils n'ont pas de documents, donc ils n'existent pas.
Mais donc ces documents vous autorisent à garder ces enfants au sein de l'institution ?
Ils nous autorisent d'abord à les reconnaître au niveau congolais.
Ça donne une identité aux enfants ?
Exactement, ils sont vivants et ils existent. D'abord leur existence, et puis de deux, ça nous autorise à les garder. C'est ça qu'on appelle l'homologation.
D'accord.
Donc on nous autorise à les garder. Donc le gouvernement nous met dans notre main, disons, ses enfants. Ils sont à lui, mais en même temps, c'est nous qui les protégeons.
Et c'est vous qui assurez leur accompagnement.
Exactement. Donc à tous les niveaux, de façon intégrale.
Et quand on parle d'accompagnement, certains enfants sont adoptés par des familles congolaises et espagnoles. Quels sont les enfants qui sont partis vers les Espagnes ? Est-ce que vous avez des nouvelles ?
Il y en a deux qui vont partir plus tôt, parce que c'est un long processus. De notre côté, nous avons tous les documents qu'il faut, mais il faut encore que du côté d'Espagne, que les documents des familles, disons, leur processus soit fini, pour qu'ils puissent enfin arriver chez nous et prendre les enfants. En fait, pour eux aussi, ça serait de l'homologation, parce que le gouvernement congolais n'accepte pas encore les adoptions. On peut les homologuer, c'est-à-dire ces familles. La société congolaise va leur donner l'autorisation de les garder jusqu'à ce qu'on leur permette de les avoir pour toujours. Mais de façon générale, vous savez, arrivé à 18 ans, un enfant qui a été homologué, il devient majeur, alors il vous appartient. Donc c'est un peu ça.
Est-ce que beaucoup de familles congolaises adoptent aussi des enfants du Kivu, par exemple ?
Oui, beaucoup de familles veulent adopter, mais c'est aussi le coût, hein, parce que ça se paye. C'est pas gratuit.
Quel est le coût d'un enfant qu'on veut adopter ?
Ben, ça peut varier entre 1 500 et 2 000 $. Ça peut varier parce que il y a l'introduction des dossiers, il y a des avocats qu'il faut payer, il y a aussi le jugement qu'il faut payer.
Sœur Georgette, vous avez fait plusieurs missions dans le monde, au Ghana, en Inde, en Colombie. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à la cause des femmes et des enfants et en quoi est-ce que c'est une vocation ?
C'est une vocation d'abord qui est personnelle. Ça a toujours été pour moi ce don de me dédier pour que les autres aient la vie. Ça part du Christ. Lui, il a donné sa vie pour nous. Et puis des deux, je suis franciscaine. Ça nous rappelle Saint François d'Assise et les pauvres. Donc j'aime bien ma vocation franciscaine, celle d'aller aux périphéries humaines, sociales, politiques, pour être proche de la vie et dans la mesure du possible, faire ce que je peux, donner de ce que je suis, de ma personne, de mon temps, et faire tout ce que je peux pour que la vie soit debout, avec la grâce de Dieu.
Enfant, est-ce que vous aviez un rêve ?
J'avais un rêve, celle de m'occuper des autres vies. Et déjà toute petite, je pense un peu ado, j'ai déjà constitué un groupe d'enfants de mon quartier, là où je commençais à leur apprendre à comment nous mettre debout ensemble.
Parce que vous étiez peut-être plus privilégié que d'autres ?
C'est possible, mais c'est aussi une vocation, mais c'est aussi, je pense, un peu de leadership. Peut-être je suis née avec ça.
Qu'est-ce que vous retenez de vos différentes missions dans le monde ?
Le don de la vie. Tu peux le donner au nord comme au sud, mais tout part de toi. Si tu es une personne de vie, tu vas donner la vie. Si tu es une personne de mort, tu vas rompre la vie des gens. C'est tout ce que moi je retiens.
Voilà ce que retient Sœur Georgette Chimbong au micro de Daniel, qu'on remercie. Il nous parlait de ce film Mama Colonel de Dieudo Hamadi. Dans quelques instants, juste avant de se quitter, rendez-vous avec le comité et quelques représentants du comité pour discuter de cette édition 2018. Mais d'ici là, voici un petit peu de musique de République démocratique du Congo. Tiens, ça tombe bien, c'est un choix de Stéphane, notre programmateur musical de cette année et de ce festival. Voici la chanson « Je suis fâché » de Abeti Mazikini, 1986.
Combo yene wo ma Yona likambo na moyete.